Bonjour à tous les chers auditeurs qui nous écoutent ici ce matin sur Le Droit Chemin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans notre émission sur l'usage du 49.3 pour la réforme des retraites, Monsieur Ribeiro, qui pense que le 49.3 est légitime, et Monsieur Bonald, qui pense justement que ce 49.3 est illégitime, avec la présence également de trois juristes qui éclaireront nos chers téléspectateurs au long du débat sur ces notions pointues de droit sur lesquelles nous allons débattre. Tout d'abord, nous aurons Madame Thierry, puis aussi également Madame Grandi, et enfin Madame G. Nous allons maintenant commencer le débat. Dites-nous, chère Madame Grandi, comment est-on arrivé à un tel point que le destin de la France est sous la responsabilité du Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites qui est largement contestée par la population et le Parlement?
Le gouvernement d'Elisabeth Borne a fait un projet de loi le 10 janvier 2023 pour mettre en place une réforme du système français des retraites. L'un des changements les plus importants serait l'âge minimal pour la retraite, passant de 62 à 64 ans. Le projet est bien délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a, comme son nom l'indique, un rôle de conseiller pour l'État. Il examine un projet de loi pour voir si le texte est suffisamment clair, s'il est conforme aux autres lois, etc. Je vais passer la loi à Mme Thierry.
Ensuite, la loi est débattue au sein du Parlement, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale est composée de 577 membres élus au suffrage universel direct, et le Sénat est composé de 348 membres élus au suffrage universel indirect. Le projet de loi va donc faire la navette entre ces deux institutions. Ça, c'est le processus législatif normal. Maintenant, la réforme des retraites a subi un processus particulier.
Nous allons première voir si ces deux institutions ne parviennent pas à tomber d'accord. Comme le Parlement n'est pas d'accord, le Premier ministre a saisi la commission mixte paritaire, le CMP, composée de 7 députés et 7 sénateurs qui cherchent à élaborer un texte commun qui sera ensuite remis au vote par chaque assemblée. Ensuite, il se peut que le Conseil constitutionnel soit saisi. Il a été saisi à cause du fait que la réforme est trop importante pour être adoptée avec une procédure d'urgence, motivée par l'article 49-47-1, et pour analyser s'il est légal d'établir un âge de départ à la retraite si tard, au-delà des 62 ans. S'il est constitutionnel d'avoir fait un référendum d'initiative partagée, le RIP, plus précisément pour examiner si le texte est recevable ou pas. Ce référendum d'initiative populaire offre la possibilité d'organiser une consultation populaire sur le projet de loi. Pour cela, 185 des 925 parlementaires doivent déposer une proposition de loi référendaire. Dans la situation actuelle, le RIP est déjà soutenu par 250 parlementaires. Il est donc passé à l'étape suivante, celle de l'examen du RIP par le Conseil constitutionnel. Nous verrons à la fin comment se déroule dans le détail la procédure.
Cependant, ceci n'a pas été le cas pour la réforme des retraites. Une nouvelle lecture a eu lieu dans chaque assemblée, le gouvernement pouvant demander le dernier mot à l'Assemblée nationale. Néanmoins, dans le cas du projet de loi d'Elisabeth Borne, le gouvernement n'a pas la majorité de voix dans l'Assemblée nationale et décide donc de faire passer la réforme à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution de la Ve République, qui le permet de faire passer une loi sans l'approbation du Parlement. Les députés de l'Assemblée nationale tentent alors de l'empêcher avec une motion de censure. Lire le texte. Cependant, ceci n'a pas été le cas pour la réforme des retraites. Une nouvelle lecture a eu lieu dans chaque assemblée, le gouvernement pouvant demander le dernier mot à l'Assemblée nationale. Néanmoins, dans le cas du projet de loi d'Elisabeth Borne, le gouvernement n'a pas la majorité de voix dans l'Assemblée nationale et décide donc de faire passer la réforme à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution de la Ve République, qui le permet de faire passer une loi sans l'approbation des parlementaires. Les députés de l'Assemblée nationale tentent alors de l'empêcher avec une motion de censure, qui renverserait le gouvernement et empêcherait la mise en place de la réforme.
Le Premier ministre, peu après délibération du Conseil des ministres, engageait la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent et voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet, une proposition de loi d'accession.
Cependant, alors que 287 voix sont nécessaires, il il n'y a que 278 députés qui votent pour la motion de censure. Le projet de loi n'est donc pas empêché.
Les députés essaient alors d'empêcher la réforme avec le dernier recours disponible, le contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, qui peut empêcher la promulgation de la loi en cas de manque de conformité avec la Constitution. Le Conseil constitutionnel est composé par 9 membres nommés par le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires. Les membres du Conseil sont renouvelés 3 par 3 tous les 3 ans. Concrètement, chaque 3 ans, chacune des 3 instances choisit un conseiller. De ce fait, on peut voir qu'il n'est pas uniforme et qu'il est issu de toutes ces instances gouvernementales. Ce Conseil constitutionnel peut être saisi après l'adoption définitive par le Parlement du projet de loi. C'est ce qui s'est passé pour cette réforme. Le lundi 20 mars 2023, le Conseil constitutionnel a reçu la présidente de l'Assemblée nationale une transmission d'une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. Il vise à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 72 ans. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision vendredi 14 avril. Dès lors, s'il juge que la loi est jugée anticonstitutionnelle, elle ne peut pas être promulguée.
Finalement, comme le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ce projet, la procédure s'est clôturée avec la promulgation de la loi par le président de la République.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces notions que vous avez élucidées et pour nous avoir expliqué le contexte. Ça permet vraiment de comprendre un peu le contexte avant de présenter le fameux débat que nous allons avoir maintenant, avec d'un côté, comme je l'ai dit, Monsieur Ribeiro qui va dire en quoi ce 49.3 est légitime, son usage, et enfin, Monsieur Bonal qui va nous expliquer en quoi l'usage du 49.3 par le gouvernement est-il illégitime.
Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur Bonal.
Bonjour.
Je suis Monsieur Ribeiro, et avant même de parler de la légitimité, que oui, l'article 49.3, il est légitime, on doit parler de l'égalité. Du point de vue formel, du point de vue juridique, l'article 49.3 est absolument légal. Il fait même partie de la Constitution française, qui est le texte majeur de la République française qui structure tout le reste du droit français. Donc, ce n'est même pas une loi ordinaire, c'est même au sein de la Constitution française. Donc, c'est totalement légal.
Alors, Monsieur Ribeiro, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française est inscrit dans la Constitution. Mais le problème, c'est que Macron utilise cet outil. Or, cet outil n'est pas attribué à M. Emmanuel Macron. L'article 49.3 est attribué au pouvoir de la Première ministre, donc non au président. Mais le gros problème, c'est la légitimité. Bien que cet article soit inscrit et soit totalement légal, est-ce vraiment légitime par rapport au peuple qui conteste même l'utilisation de cet article 49.3 pour la réforme des retraites?
Bon, M. Bonal, d'abord sur le fait que c'est au Premier ministre d'utiliser l'article 49.3, on sait tous que la Première ministre Elisabeth Borne a été choisie par le président de la République Emmanuel Macron. Et on dit que c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui utilise l'article 49.3. Donc c'est simplement une technicité, c'est là. Et sur la légitimité. Justement, le président Emmanuel Macron, le président de la République française, est élu par tous les Français. Et au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron a obtenu plus de 18 millions de votes. Donc, 18 millions de Français ont voté Macron. Et ces personnes-là dans la rue qui manifestent contre l'usage du 49.3 ne sont que 2 ou 3 millions de personnes, qui ne représentent donc qu'une petite partie de la population française. Donc, la population française a donné le pouvoir à Emmanuel Macron par le vote, et là, une petite minorité veut contester la légitimité.
Le chef de l'État dispose de pouvoirs propres. Il s'agit de pouvoirs qu'il exerce seul, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Ces pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 19 de la Constitution, nommé le Premier ministre, article 8, premier de la Constitution. Soumettre un projet de loi au référendum, article 11, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, article 12, exercer les pouvoirs exceptionnels, article 16, communiquer avec le Parlement, article 18, saisir le Conseil constitutionnel d'un engagement international, article 54, ou d'une loi, article 61, et nommer 3 de ses membres ainsi que le président du Conseil constitutionnel, article 56.
Ce que vous venez d'écouter, M. Bonal, c'est Mme Zéré, une juriste qui nous lie le pouvoir du président de la République qu'il a justement parce qu'il a la légitimité.
Alors, je vous le conseille. Le président a, enfin, le gouvernement, pardon, a la légitimité d'utiliser l'article 49. Le président est élu au suffrage universel, qui va nommer une première ministre, et cette première ministre va choisir son gouvernement. Alors, il y a un problème qui se pose. C'est qu'Emmanuel Macron ne considère pas la rue comme important dans la vie politique française. Alors, la rue, vous êtes d'accord avec moi, c'est le peuple français.
Le peuple a élu monsieur Emmanuel Macron.
Oui, mais la rue, donc la rue qui manifeste, c'est le peuple français. Le peuple qui remet en cause cette réforme. Alors, il ne faut pas oublier l'essence même d'une république. L'essence même d'une république, c'est une démocratie. C'est le pouvoir, donc la politique, qui appartient au peuple. C'est pas ce problème. Ensuite, monsieur Reber, concernant donc le petit nombre de personnes qui sont allées manifester dans les rues, c'est pas vraiment petit quand même. Hein. Les manifestations ont regroupé 2,5 millions de personnes le 7 mars. Alors, ça, c'est d'après les syndicats, et 1,3 million d'après la préfecture. Peut-être que par rapport aux 66 millions de Français, c'est petit, mais c'est quand même, d'après leur sondage, 80% de la population française qui sont contre cette réforme, contre la réforme des retraites. Les personnes ne peuvent par exemple pas manifester pour X ou Y raison. C'est pour ça qu'il n'y a pas 60 millions de Français qui sont dans les rues.
Bon, monsieur, ce que j'ai à vous dire, c'est que non seulement l'article 49.3 et son usage sont légaux, sont légitimes, comme aussi c'est nécessaire. Parce que le 49.3 est un outil politique pour éviter les impasses et empêcher l'opposition d'entraver toute action politique du gouvernement. En effet, pour comprendre et juger une loi, il faut d'abord rappeler les contextes de sa création. Et ce n'est pas par hasard que l'article 49, alinéa 3, a été promulgué en 1958, faisant partie de la constitution de la 5e République. De 1946 à 1958, la France a vécu la 4e République, où les régimes politiques étaient parlementaires. Et oui, si ce système présente des avantages, le risque d'impasse est élevé, parce que si l'opposition est importante au Parlement, alors le gouvernement se trouve impuissant pour mener sa politique. Pourquoi pensez-vous, M. Bonal, que la France a connu 25 gouvernements en seulement 12 années de 4e République? Et si l'Assemblée constituante et l'Assemblée constituante, consciente de ce risque, a créé l'article 49.3 qui permet de résoudre une telle situation. Soit le gouvernement applique sa politique, et donc on arrive à progresser, et l'Assemblée nationale accepte, soit l'Assemblée nationale renverse le gouvernement, et un autre gouvernement va venir pour appliquer une autre politique. Dans les deux cas, on évite la paralysie politique.
Alors, au final, monsieur, on se retrouve avec un pouvoir un peu monarchique, hein, l'exécutif qui est plus puissant et le législatif qui est bien moins puissant. Par exemple, l'utilisation de l'article 47-1. Le gouvernement a utilisé cet article. Ça veut dire quoi? C'est s'il n'y a pas eu de prononcé sur la première lecture d'un texte de loi, l'article 47-1 de la Constitution va limiter le débat en 15 jours de débat. Dans le Parlement, donc l'Assemblée nationale, etc. C'est un problème, monsieur. Écoutez, tous les amendements, donc contre cette réforme des retraites, enfin pas contre, mais tous les amendements par rapport à cette réforme des retraites n'ont pas eu le temps d'être lus. Il y en a peut-être des milliers, mais en 15 jours, c'est impossible de faire ça. Donc il y a un problème démocratique, vu qu'on ne prend pas en compte l'avis de l'opposition.
Bon, monsieur. C'est triste que vous dites ça parce que justement, nos juristes viennent de nous parler de la commission mixte paritaire. Et peut-être que vous n'avez pas compris exactement, mais la commission mixte paritaire, c'est un outil qui permet que le Parlement donne son avis toujours. Parce que cette commission a été saisie dans la réalité par Elisabeth Borne et ils ont trouvé un accord. Alors, il est faux de dire que le gouvernement a fait passer la réforme des retraites sans l'avis du gouvernement.
Sans l'avis de l'Assemblée nationale et du Parlement. Mais alors, on peut dire un peu que cette commission mixte paritaire, c'est pipeau, hein, clairement. rappelle, l'accord, une commission mixte paritaire, c'est un accord sur un même texte de loi. Sauf que, au final, si on regarde dans les entrailles de la formation même de cette commission mixte paritaire, on voit qu'il y a un problème. C'est le président du Sénat et de l'Assemblée nationale qui vont choisir les membres de cette commission. Les membres de cette commission, ce sont 4 de la majorité et 3 de l'opposition. Et, à votre avis, comment un texte de loi est adopté ? Par un vote à la majorité. Et évidemment, si de base même on a 4 membres de cette commission qui sont majoritaires, les 3 de l'opposition, bah, la seule solution, c'est de se taire et on ne peut rien faire. Donc on ne prend pas en compte l'avis de l'opposition. Alors juste dans le cadre, à mon avis, c'est le cadre peut-être personnel, mais ceux qui vont voter pour, c'est Renaissance, donc le groupe d'Emmanuel Macron, LR, donc les Républicains, et ceux qui vont voter contre, c'est la NUPES, l'Alliance de Gauche et le RN, le Rassemblement National.
Bon, monsieur, si vous n'êtes pas satisfait qu'il existe une commission mixte paritaire où un petit nombre de parlementaires arrive à négocier, donc je dois vous dire que quand même, ce n'est pas autoritaire l'usage du 49.3, parce que, encore une fois, comme nos juristes l'ont déjà expliqué, il existe l'option de la motion de censure. Alors, monsieur, si le gouvernement est vraiment populaire, comme vous dites, s'il ne représente plus les Français, une motion de censure peut être votée. Et si elle recueille plus de votes, plus de la majorité des votes, le gouvernement est renversé. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que cette motion de censure, dans le cas de la réforme de retraite, n'a pas abouti. Donc, le gouvernement n'est pas vraiment impopulaire. Et donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un acte autoritaire, l'article 9.3, puisqu'il prévoit lui-même un contre-attaque de ceux qui lui sont défavorables. Et dans le cas de la réforme de retraite, ce contre-attaque n'a pas abouti parce que le gouvernement, oui, est populaire et oui, a toute la légitimité de le faire.
Cette motion de censure, monsieur, bon, c'est un peu comme la commission mixte paritaire, en fait. Hein. Là aussi, c'est bon à grand n'importe quoi. La motion de censure, elle implique, pour être adoptée, une majorité absolue. Or, depuis le passage du septennat au quinquennat, l'élection législative se fait au même moment que l'élection exécutive. De l'exécutif, pardon. Ça pose problème, hein, car ça donne directement la majorité absolue ou relative, la relative dans notre cas, au gouvernement. Au gouvernement, au Parlement. Et en fait, on se rend compte que tous les recours démocratiques contre l'exécutif qui peuvent être mis en place, ils sont quasiment impossibles à pouvoir être réalisés, à pouvoir s'appliquer.
Bon, monsieur, jusqu'ici, vous m'avez persuadé non que l'article 9.3 n'est pas légitime, mais que je ne vais pas vous convaincre. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi vous n'acceptez pas que c'est légitime, mais l'avis qui a vraiment de l'importance, c'est celui du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y a pas d'illégalité, il n'y a pas d'opposition entre la réforme de retraite et ce que dit la Constitution française. Donc, au bout du compte, c'est l'avis du Conseil constitutionnel qui va définir si cette réforme a passé ou non. Et oui, elle a passé. Le Conseil constitutionnel l'a autorisée.
Bon, pour vous répondre sur le Conseil constitutionnel, là encore, on va voir en fait du côté des membres. En fait. Alors, j'aimerais spécifier quelque chose pour nos auditeurs. En France, et spécifiquement en France, c'est assez étrange, les membres qui sont donc nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, n'ont aucune condition, en gros, ils peuvent rentrer même s'ils n'ont aucune compétence en droit. Ce qui est bizarre quand même, vu que c'est censé juger le droit d'un article par rapport à la Constitution. Enfin, passons. Le nombre total de membres, je crois que c'est là, si je ne me trompe pas, il y a 6 membres qui ont été élus sous le mandat d'Emmanuel Macron. Il y en a même 7 qui sont plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Bien que ces membres sont censés mettre de côté leur opinion politique, j'en doute. Et j'en doute plutôt fort. Je doute du politiquement neutre du Conseil constitutionnel.
Oui, donc, monsieur, vous questionnez tous les utiles possibles pour dire que le 49.3 est légitime, la commission mixte paritaire, le conseil constitutionnel. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, il est légitime, et on laisse à ceux qui nous écoutent de faire leur propre opinion.
En tout cas, merci beaucoup pour ce débat passionné, sincèrement. On a eu de très bons arguments des deux côtés et ça sera à nos chers auditeurs de faire leur propre avis. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous venons de recevoir, durant ce passionnant débat, la décision du Conseil constitutionnel. Et disons qu'elle ne fait pas l'unanimité. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel vient de valider l'essentiel de la réforme, dont le report de l'âge de départ à 64 ans, et rejette la demande de référendum pour rejeter cette réforme des retraites, justement. On a aussi, c'est donc un espoir pour le gouvernement de trouver une sortie de secours. Mais on a cependant quelques rejets à nuancer, 6 modalités avec par exemple l'index senior, qui est l'article 2 relatif à l'index senior qui pousse les grandes entreprises de plus de 300 salariés à la transparence sur la place des salariés en fin de carrière, voire à négocier par exemple s'ils sont en cas de faible productivité, c'est-à-dire une baisse des salaires. On a une justification de la décision du Conseil constitutionnel, il le justifie en reconnaissant, je cite, le caractère inhabituel de l'utilisation combinée des articles 47.1 et 49.3 de la Constitution, mais, je cite, en réponse aux conditions du débat, elle n'a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contrainte à la Constitution, et cette décision ne fait pas l'unanimité, puisqu'on vient de me dire qu'il y a eu un poste de police incendié à Rennes, ce qui illustre bien qu'on a qu'on est en train de vivre en France, là, des protestations immédiates contre cette décision du Conseil constitutionnel. Merci à tous, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié notre émission, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission où on va parler des chimpanzés. Merci à tous.